Et je vous invite à la lecture dans cette parole qui éclaire nos pas, qui éclaire notre sentier. Je vous invite à la lecture dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, au chapitre 15, et nous lirons ensemble les sept premiers versets. L'évangile de Luc, chapitre 15, les sept premiers versets. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis, ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. J'ai grandi en Algérie, dans mon village, lorsque j'étais petit. Nous avions un voisin qui un jour avait perdu un veau, un petit veau. Tout le village, enfin tout le quartier et le village s'est mobilisé pour aller aider ce voisin à la recherche de son veau. Et plus que la nuit s'approchait, il y avait de l'angoisse. Il y avait l'angoisse qui augmentait parce qu'ils avaient peur de perdre ce veau et de ne pas le retrouver. Mais par la suite, très tard dans la soirée, on voit le propriétaire revenir avec son veau. Inutile de vous dire la joie qui a explosé dans tout le quartier. Et bien sûr, tout le monde ce soir-là était invité chez le propriétaire pour faire la fête. Voilà une histoire qui ressemble très nettement à celle que Jésus raconte ici à ses disciples, que Jésus nous raconte ici. Et les deux histoires disent d'une certaine manière la joie de retrouver quelque chose que nous avons perdu, qui nous appartenait. Donc il y a une grande joie, nous dit Jésus à la fin de cette parabole ou de cette histoire, il dit qu'il y a une grande joie pour un seul pécheur ou une personne, pour quelqu'un qui revient à lui, qui se tourne vers lui volontairement, en reconnaissant donc ses fautes et en demandant de pardonner ses péchés. Cette grande joie a été éprouvée dans le cœur de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous qui s'est tournée vers le Seigneur. Et je suis aussi persuadé qu'il y a aussi une grande joie maintenant dans le cœur de Dieu de voir Agathe et Muriel concrétiser leur engagement, leur conversion, lorsqu'ils sont tournés vers le Seigneur ce matin. Donc nous sommes vraiment heureux de faire partie de cette communauté des personnes pardonnées, des pécheurs pardonnés, en quelque sorte des brebis retrouvées par le Seigneur. Jésus, lorsqu'il raconte cette histoire, il la raconte dans un contexte un peu particulier. Autour de lui, il y avait deux populations. Il y avait d'un côté les collecteurs d'impôts et les pécheurs, et de l'autre côté, il y avait des pharisiens et des scribes. Pour les collecteurs d'impôts à l'époque, ou les pêcheurs, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs sont venus spécialement pour écouter Jésus, parce qu'ils voient en Jésus un rabbi qui n'est pas comme tous les autres, un enseignant qui n'était pas comme tous les autres, un enseignant de la parole de Dieu, qui sait conjuguer l'exigence de la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. Quant aux pharisiens et aux scribes, ils sont là surtout pour relever que ce rabbi ou cet enseignant de la parole de Dieu, Jésus, se donne quelques largesses éthiques en s'autorisant à manger avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. En effet, il n'est pas bon pour un rabbin à l'époque de rester en compagnie des pêcheurs. Il est censé suivre le chemin de Dieu. Et de ce fait, d'après la mentalité des religieux de l'époque, de ce fait, il ne pouvait pas se permettre de rester en compagnie des pécheurs. Il pouvait même justifier cette attitude par un des textes, les premières paroles du livre des psaumes. Quant à l'accueil favorable que Jésus accorde aux collecteurs d'impôts de son époque est tout simplement incompréhensible dans la mentalité de ces religieux par les pharisiens donc et les scribes, car les collecteurs d'impôts étaient considérés à l'époque comme des collaborateurs de l'occupant romain, et en plus de cela, ils étaient détestés par la population parce qu'ils n'arrêtaient pas de voler les gens, de voler de l'argent des gens. Ils augmentaient les impôts pour leurs propres biens. Pire encore, ces collecteurs d'impôts, tout simplement, étaient considérés, y compris par les religieux de l'époque, comme des personnes impures parce qu'elles travaillaient le jour du sabbat. Et donc, c'est une catégorie de personnes à ne pas fréquenter si on veut rester en bon terme avec notre entourage. Alors que Jésus, il se permet de rester avec eux et même de les accueillir. Les pécheurs, aussi bien les pécheurs que les collecteurs d'impôts, sont rejetés par les religieux, les rabbins du temps de Jésus, parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre à côté d'eux. Lorsque les pharisiens et les scribes se mettent à côté des pécheurs et des collecteurs d'impôts, souvent c'était pour dénoncer. C'était pour dénoncer leur attitude, leur péché, ou bien pour leur annoncer le jugement de Dieu. C'est pour cela donc que les pharisiens et les scribes ne comprenaient pas du tout l'attitude de Jésus vis-à-vis de ces pécheurs et collecteurs d'impôts. Pour eux, il y a une incompatibilité. Mais pour Jésus, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, son attitude est conforme à son enseignement. C'est lui, le juif par excellence, c'est lui qui accomplit la loi telle que Dieu l'avait donnée, et il avait dit cela déjà. Et c'est aussi lui qui avait dit à ses pharisiens, à ses religieux, au chapitre 5 de Luc, il leur a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. Il leur a dit, je suis venu pour ces personnes-là. Jésus donc avait dit cette parabole, cette histoire, justement pour faire comprendre, entre autres, si bien aux religieux qu'aux autres, que le plus important, c'est de venir sauver. Il est venu pour sauver, pour s'approcher des gens considérés dans la société de l'époque, rejetés par les religieux de l'époque. Jésus donc marque sa différence avec les autres rabbins, avec les autres enseignants de son époque, par son attitude et par son enseignement. C'est vrai que Jésus emploie les mêmes formules que les employées par les rabbins de l'époque. Par exemple, lequel d'entre vous ? Un raisonnement a fortiori. Mais néanmoins, il n'imite jamais leur attitude. C'est-à-dire, pour lui, les petits de la société, ceux qui étaient considérés par la société indigne, s'est rejeté. À cela, Jésus manifeste une grâce, la grâce et le pardon de Dieu. Jésus est en compagnie de ces personnes considérées par la société donc marginales, comme les pauvres, les miséreux, les vauriens, selon la société de l'époque. Mais Jésus, pour lui, ces personnes, elles ont leur place dans son cœur, pourvu qu'elles acceptent le message qu'il leur délivre. Et je pense au passage, en cette période de Noël, nous pouvons nous rappeler, en cette période de l'Avent, nous pouvons nous rappeler que l'annonce de la naissance de Jésus n'a pas été faite aux religieux de l'époque, aux religions en tous les cas qui exerçaient à l'époque, mais elle a été faite aux bergers, aux mages, des personnes à l'époque aussi considérées comme à la marge de la société, aux marges de la société. Nous aussi, nous pouvons nous interroger, me semble-t-il, autant que chrétiens, sur notre attitude vis-à-vis des faibles, vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis de ceux que notre société considère ou rejette ou considère ou laisse sur le bord du chemin. Sommes-nous comme les pharisiens, les scribes, qui fuient ces pécheurs notoires, ces marginaux de la société, ou bien suivons-nous l'attitude de Jésus qui accorde un accueil chaleureux, un accueil favorable aux délaissés de la société. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de nous charger d'un poids que nous ne pouvons pas porter, mais seulement de nous rendre attentifs sur toutes ces petites choses, ces petites attentions que nous pouvons apporter, chacun à son niveau, selon nos moyens, mais que nous pouvons apporter dans notre société, pour ces personnes que nous croisons sur notre chemin, dans le besoin. Nous devons veiller, me semble-t-il, sur le regard que nous posons sur ces personnes-là, en particulier en ces périodes de fin d'année, en cette période de fête. sanctionner, bien entendu, leur attitude. Ce qui est condamné par l'Écriture est condamné, le péché est péché, mais nous pouvons porter un regard de compassion, de tendresse et d'amour, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'avait fait bien avant nous. Car les personnes laissées au bord de la société sont aussi créées en image de Dieu, et c'est cette image de Dieu que nous sommes invités à considérer avant de considérer l'état religieux, social ou je ne sais pas quoi d'autre de la personne. Comme les pharisiens et les scribes voyaient d'abord le manque de religiosité des collecteurs d'impôts, des pécheurs, Jésus va prendre le temps donc de faire comprendre le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, car tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, il le fait, il le dit de la part de Dieu. Jésus donc raconte trois histoires dans ce chapitre. Il raconte cette histoire que nous avons lue, la brebis retrouvée. Il racontera après une histoire de la drachme retrouvée et puis de fils retrouvés. Et dans cette parabole, Jésus va souligner d'une manière toute particulière deux choses. D'abord, la valeur inestimable aux yeux de Dieu de chaque être humain. Chaque pécheur, indépendamment de son péché, Dieu aime l'être humain, la personne humaine. Et la deuxième chose que Jésus va souligner, bien sûr, c'est la joie qu'il y a dans le cœur de Dieu de voir l'être humain revenir à lui, se réconcilier avec lui. Cette valeur inestimable que chacun d'entre nous, que chaque être humain a aux yeux de Dieu, est tellement grande que Jésus va employer une image frappante pour exprimer cela. Il dit, c'est un berger va abandonner ou bien va laisser 99 brebis pour aller chercher la centième, celle qui a été perdue. Il va déployer, ce berger va déployer tous ses efforts, tous les efforts nécessaires jusqu'à ce qu'il retrouve sa brebis. Pas question d'abandonner, même si le prix à payer est cher. Justement, comment comprendre cette importance qui peut paraître par moments démesurée de la part de ce berger. Avant tout, en laissant 99, surtout s'il les laisse dans les airs, comme cela a été traduit dans nos versions, dans notre Bible, comment se fait-il qu'il va laisser les 99 pour aller chercher la centième? Il risque de perdre aussi bien les 99 que la centième. Donc il risque de se retrouver sans brebis, tout simplement. En fait, pour comprendre un petit peu l'attitude de Jésus, il faudrait considérer certains éléments de son contexte. La première chose qu'il faudrait souligner, c'est que le troupeau à l'époque, un troupeau de 100 brebis, n'est jamais une propriété d'un seul berger. Parce qu'un berger qui se permettrait d'avoir 100 brebis, il va tout simplement embaucher quelqu'un d'autre pour travailler en son compte et lui n'exercerait pas cette profession. Donc souvent, des troupeaux de cette ampleur sont des troupeaux de plusieurs bergers. Et donc, lorsque le troupeau dont il est question dans notre histoire, c'est un troupeau composé de plusieurs, c'est un troupeau qui appartenait à plusieurs brebis. Et les brebis, donc, c'est des brebis qui appartenaient à plusieurs bergers. Et les bergers, donc, mettaient ensemble leurs brebis, ensemble dans l'enclos ou dans la bergerie. Et puis, le matin, ils les font sortir. Le soir, ils les ramènent ensemble dans la bergerie. Et c'est l'image qui ressort dans l'évangile de Jean au chapitre 10, lorsque Jésus parle, donc, de bon berger qui vient, qui ramène ses brebis et le soir dans l'enclos et puis qu'il les fait sortir le matin dans des verts pâturages. Les 99 brebis ne sont pas laissées dans le désert comme on le traduit par le terme désert, mais en fait ça fait allusion à un endroit qui n'est pas complètement désertique. C'est un petit peu semi-désertique, mais c'est un endroit où on ramène habituellement, il y a du pâturage, et c'est là que les brebis se sont emmenées pour qu'elles puissent manger ou passer la journée. Donc ce n'était pas tout à fait dans un lieu désertique que les 99 ont été abandonnés. Donc le berger n'était pas insensé, si vous voulez. Donc il a bien calculé sa donne. De toute manière, ces 99 brebis ont été laissées dans un lieu sûr et elles ne risquent rien. Et elles sont en quelque sorte tirées d'affaire. Mais en aucun cas, elles ne peuvent ces 99 brebis ne peuvent remplacer la brebis perdue. C'est pourquoi le berger va à la recherche de la brebis perdue, parce que celle-ci est unique, elle est tout simplement pour lui irremplaçable. Cette image d'une brebis irremplaçable par d'autres dit aussi la valeur que chaque pécheur retrouvé a aux yeux de Dieu. Cette image dit la valeur que chacun d'entre nous a aux yeux de Dieu. Elle dit que personne au cœur de Dieu n'est irremplaçable. Personne n'est remplaçable. Si pour le travail ou pour les services, tout le monde peut être remplacé, ce n'est pas le cas dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, personne ne peut être remplacé. Chacun a sa valeur dans son cœur. En d'autres termes, si nous étions seuls, si nos chers baptisés étaient les seuls à être, se retrouver dans la situation de la brebis perdue, Jésus serait venu quand même pour nous sauver. Donc ce n'est pas une question de nombre, mais c'est une question de personne, de chacun. En utilisant l'image du berger, Jésus veut aussi dire l'amour de Dieu envers les êtres humains n'est pas seulement un amour en parole, mais aussi un amour en acte. Car la profession de berger au temps de Jésus est très exigeante. La journée débute souvent au lever de soleil, très tôt, et se termine très tard au coucher de soleil. Et chaque jour, y compris les jours fériés, le berger est censé prendre soin de son troupeau. Donc c'est une profession à plein temps, une profession très prenante et bien exigeante. Ces exigences de la profession de berger ne sont pas nouvelles dans l'Ancien Testament. Les bergers devaient trouver du pâturage pour leurs brebis. Même dans des terres arides, et le psaume, il le souligne, le psaume 23, le berger doit trouver pâturage pour ses brebis. Les bergers devaient aussi protéger leur troupeau des intempéries, des bêtes sauvages. Et lorsqu'une brebis est égarée, il est tout à fait normal que le berger aille la chercher avant de rentrer, avant de revenir à la maison. Plus encore, le berger était tenu de rembourser toute bête perdue, à moins que, bien sûr, il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa prévoyance et de sa volonté. Donc le berger idéal devait être fort, devait être dévoué, devait être désintéressé. Le berger se consacre entièrement pour ses brebis, et ce, dès le début de la journée jusqu'à tard le soir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, Jésus se présente comme le bon berger, celui qui répond à toutes ses exigences, celui qui est venu manifester son amour, un amour sans faille, un amour qui va aussi loin que le nécessaire pour le bien de ses brebis. C'est un amour désintéressé, sans calcul, un amour tourné vers l'autre et non pas vers soi-même. L'amour de Jésus s'exprime concrètement en ce qu'il donne sa vie pour ses brebis. C'est un don de soi total, complet. Ce don de soi n'est pas fondé sur l'intérêt, comme le font les faux bergers, par exemple, mais il vise bien les brebis. Contrairement aux mauvais conducteurs religieux dont certains pharisiens et scribes auxquels Jésus s'adressait dans notre parabole, Jésus n'est pas motivé par des intérêts personnels, mais bien au contraire, il est animé d'un amour exceptionnel, remarquable pour ses amis. L'amour de Jésus pour ses brebis est décrit de trois manières remarquables, toujours dans le chapitre auquel j'ai cité tout à l'heure. D'abord, c'est un berger qui s'engage quotidiennement au service de ses brebis. Ensuite, c'est un berger qui développe une relation personnelle avec chacune de ses brebis. Et enfin, c'est un berger qui s'est donné pour ses brebis. Au chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jésus va dire à ses amis, à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. » Bien sûr, si vous écoutez mon commandement. C'est ainsi que donc que nous pouvons voir derrière le berger dans notre parabole, dans notre histoire, qui laisse les 99 brebis dans un lieu sûr pour aller chercher la centième, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même venant chercher les brebis perdues. Qui sont ces brebis perdues auxquelles fait allusion Jésus ici dans notre histoire? À la lumière du contexte, de verset 1 et le verset 2, les brebis perdues renvoient dans cette parabole à ces collecteurs d'impôts et aux pécheurs mentionnés au verset 1. Les collecteurs d'impôts sont considérés comme extérieurs à la loi de Dieu par leur profession, mais parfois aussi par leur pratique. Et les pécheurs, bien sûr, sont considérés désobéissants à la loi de Dieu. Au-delà de ces collecteurs d'impôts, de ces pécheurs notoires, c'est toute l'humanité qui est visée par cette brebis perdue. L'humanité tout entière était destinée à subir la colère de Dieu à cause de son péché. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », dit l'apôtre Paul. Et dans les trois premiers versets du deuxième chapitre de son Épître aux Éphésiens, il décrit la situation aussi bien des Juifs et des non-Juifs, des païens, c'est-à-dire de toute l'humanité, dans les termes suivants. Il dit, « Vous, en s'adressant donc aux païens, vous étiez morts par vos fautes, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, en disant nous, il parle des Juifs, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. » Ces versets de l'apôtre Paul décrivent d'une manière accablante la situation de l'être humain qui n'est pas au bénéfice du salut accordé par Jésus-Christ. Paul ne décrit pas uniquement une catégorie de la société qui serait rebelle, corrompue, qui serait débauchée ou encore idolâtre, puisqu'il inclut par la suite les Juifs qui ont reçu la loi et la parole de Dieu. Mais il décrit tout simplement une société déchue, habitée par des êtres humains déchus, marqués par le péché. C'est la condition humaine, avant d'être sauvé, avant d'être touché par la grâce de Dieu, que l'apôtre Paul dépeint ici, dans ce passage. Le contenu de ces trois versets va être développé par la suite dans l'Épître aux Romains, mais dans tous les cas, l'apôtre Paul établit d'une manière très claire le péché, la culpabilité des païens d'abord, ensuite celle des juifs, avant de l'étendre à toute l'humanité. Et d'après l'enseignement de l'apôtre Paul, aussi bien dans l'Épître aux Éphésiens que dans l'Épître aux Romains, personne ne peut prétendre qu'il ne fait pas partie de ces brebis perdues auxquelles Jésus fait allusion dans notre parabole. Nous étions tous perdus, loin de Dieu, et tous nous avons besoin d'être retrouvés, d'être sauvés, tout comme la brebis perdue dans notre texte. Dans notre parabole, la brebis perdue est retrouvée par son berger. Désormais, elle n'est plus perdue. Il faudrait l'appeler la brebis retrouvée. Elle est sauvée de toute forme de danger. Elle est maintenant au bénéfice de la protection de son berger. Cette trouvaille produit une joie immense dans le cœur du berger. Les efforts ont fini par être payés. La joie du berger est telle qu'il a mis sa brebis sur ses épaules, un geste qui exprime d'une certaine manière et d'une manière même forte, je dirais, une tendresse remarquable et les soins particuliers que le berger continue à apporter à sa brebis malgré la fatigue qu'il pouvait éprouver suite à toute sa recherche. Arrivé à la maison, au lieu de se reposer et de dormir pour décompresser un peu, la joie le pousse au contraire à inviter ses amis, ses voisins pour faire la fête parce qu'il était tellement heureux de retrouver cette brebis perdue. Il invite ses amis, ses voisins pour se réjouir, partager, vivre cette joie avec lui. Jésus est venu chercher tous ceux qui se reconnaissent dans cette brebis perdue. Jésus est venu pour tous ceux qui veulent être sauvés, secourus de leurs péchés, de leur situation, de leur perdition. Que ceux qui ne prétendent pas être justes sur la base des œuvres religieuses, tous ceux qui ne prétendent pas être justes ou justifiés parce qu'ils font le bien, parce qu'ils ne font pas le mal, ceux-là ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier de soins de ce berger parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin. Mais ceux qui ne se considèrent pas justes à leurs propres yeux, ceux qui ne considèrent pas que leurs propres œuvres religieuses pourraient les sauver, ceux qui pensent que seul Jésus peut les délivrer de la condamnation de péché, ceux-là peuvent bénéficier des soins de ce bon berger. ceux qui pensent pouvoir gagner le salut par leurs actes, par leurs efforts, cela n'éprouverait pas probablement le besoin de venir vers ce Sauveur qui donne le salut gratuitement. Mais tous ceux qui pensent qu'ils peuvent, que tous ceux qui sont conscients de leur situation, qu'ils ne peuvent pas gagner le salut par leurs propres actes, ceux-là peuvent se tourner vers ce Sauveur merveilleux qui nous donne, qui nous sauve de notre perdition et qui nous accorde des soins qui vont même bien au-delà de la vie terrestre dans laquelle nous sommes. Tous ceux qui se reconnaissent perdus à cause du péché, à cause de ce péché qui nous a séparés de Dieu, de la présence de Dieu, tous ceux-là auront de la part du bon berger les soins, les délivrances que personne d'autre, qu'aucune religion ne pourra leur accorder. Comme pour Muriel et Agathe, elles qui ont aussi un jour reconnu que dans leur situation, seul Jésus pouvait leur apporter le salut du péché, le salut de la condamnation. Comme pour elles, tous ceux qui reconnaissent encore aujourd'hui que Dieu veut les sauver, que tous ceux qui reconnaissent le Sauveur en Jésus-Christ, ils peuvent aussi bénéficier de ce salut que Jésus-Christ donne gratuitement. C'est à ce salut, c'est ce salut que Jésus nous offre. Offre à tous ceux et celles qui se tournent vers lui, qui veulent retrouver une relation personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Cet appel est aussi vrai pour nous aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche. C'est l'occasion de le faire. Et pour terminer, je voudrais donner cette occasion à ces personnes en particulier, à ces personnes qui veulent aujourd'hui dire à Dieu, dire à Jésus, de leur apporter les soins dont ils ont besoin, le salut dont ils ont besoin, la délivrance dont ils ont besoin. Et je voudrais vous donner cette occasion maintenant, en vous demandant simplement de vous lever. Je vous invite à vous lever tous, et ceux qui souhaiteraient répéter cette prière dans leur cœur, en demandant à Jésus d'intervenir dans leur vie, peuvent le faire après moi, mais bien sûr dans leur cœur. Mais j'inviterai tout le monde à se lever, sachant que bien sûr la plupart d'entre nous ont déjà fait cette démarche. Seigneur Jésus, je me reconnais ce matin dans cette brebis perdue. Je reconnais que ni mes bonnes actions, ni ma religiosité ne peuvent me sauver de mon péché, de ma condamnation. Je viens vers toi te demander de me pardonner, de me délivrer de ma condamnation et de m'accorder la joie de ton salut. Je veux reconnaître que tu es mon Sauveur, celui qui est venu me chercher, qui est venu me conduire dans ta bergerie et me réconcilier avec mon Père Céleste. Je te prie d'être mon Seigneur, d'être mon guide et mon Dieu. Je te prie de m'apprendre à marcher avec toi et m'éclairer par tes lumières. Amen. Je vous invite à vous asseoir.